la presse d'Europe 1, 19h-20h, François Clos.
Un club de la presse qui va être consacré à la riche actualité du jour avec ce défilé sur les Champs-Élysées, cette cérémonie en cours actuellement à Nice et une journée très spéciale en ce 14 juillet. Nous recevrons tout à l'heure la politologue américaine, enseignante et chercheuse aux séries Amy Green pour commenter cette page assez étonnante dans l'histoire des relations franco-américaines qu'on a vécue ce matin sur les Champs-Élysées et tout au long de ces dernières heures à Paris. Et puis dans un instant, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Bonsoir Éric Coquerel. L'une des voix, il y a la voix de l'Amérique et en France, il y a des voix anti-Amérique, celle notamment des Insoumis.
Anti-Trump.
Mais je trouve que l'Amérique, c'est Trump en ce moment un peu, donc votre commentaire sur cette journée nous intéresse particulièrement. Et puis, à côté de moi, les grandes signatures pour vous interroger, grandes signatures d'Europe 1. Serge Julie, bonsoir.
Bonsoir.
Je commence exceptionnellement par un homme. Normalement, on doit commencer par la dame. Bonsoir, Arlette Chabot.
Vous me dites bonsoir, c'est l'essentiel. Bonsoir.
Oui, mais je voulais vous féliciter aussi, vous me permettez?
Ah non.
Ah ben si, je vais vous féliciter au nom de toute la maison Europe 1, parce que le 14 juillet, c'est la journée des victoires françaises sur le Tour de France, c'est la journée des défilés militaires, mais aussi des décorations. Et on veut vous féliciter, puisque vous avez été élevé au rang...
félicitations, mais la décoration.
Au rang d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur, et c'était en plus une promotion resserrée, avait voulu Emmanuel Macron. Donc bravo à vous, c'est tout à fait mérité, Arlette Chabot.
Je ne sais pas.
On est très fiers, Europe 1.
D'accord, merci alors,
Et on voulait vous le dire, elle est très pudique, Arlette. Voilà, après ces félicitations, ces présentations, on va passer à l'actualité. Éric Coquerel, vous m'avez corrigé, vous m'avez dit non, pas anti-Amérique, anti-Trump. Quelque part quand même, en ce 14 juillet, quand on regarde les images de la journée, les Français qui brandissent un petit drapeau américain sur les champs, un pilote américain dans un rafale français pour symboliser cette union franco-américaine dans le combat contre une dictature islamiste en Irak et en Syrie. Ce sont des images qui doivent vous faire plaisir, ça, quand même.
Oui, enfin bon, écoute, nous, j'ai entendu le président de la République dans son discours de fin de 14 juillet en expliquant que finalement, la France, quoi qu'il arrive, était amie des États-Unis. Bon, bah c'est ça le problème. Non, la France n'est pas amie des États-Unis, quoi qu'il arrive. La politique américaine, à un moment donné, peut conduire la France à avoir d'autres réactions. Je vous donne un exemple. En 66, l'Amérique envahit le Vietnam. Qu'est-ce que fait De Gaulle ? Il interdit le survol des avions américains sur le territoire français et il sort du commandement unifié de l'OTAN. Bon, c'est juste pour dire qu'il y a des moments de l'histoire, on ne doit pas forcément être aligné derrière les États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on remet en question l'OTAN.
La phrase, c'était un renvoi au centenaire de l'intervention américaine dans la Première Guerre mondiale.
Bien sûr, non, il disait pas que ça. Je pense que c'est pas que ça. Je pense qu'il y a toujours certains politiques ont une vision atlantique. Je pense que c'est le cas de Macron. Et cette année, au moment où Trump rompt avec les accords du climat et explique au nom d'une vision climato-sceptique qui est absolument dramatique pour l'humanité qu'en réalité la question du climat ne le concerne plus, je crois que c'était vraiment pas opportun de l'inviter cette année-là.
Arlette Chabot.
Une commémoration, une célébration, remerciement pour les États-Unis, s'il est invité, comme aurait été invité un autre président ou une présidente pour effectivement cet anniversaire 1917-2017, voilà, intervention. On peut continuer à être l'ami des États-Unis, l'ami de l'Amérique, même si on n'aime pas son président, ça n'a rien à voir.
Attendez, le problème, c'est que vous savez bien, Arlette Chabot, qu'il y a beaucoup d'événements qui nous lient avec les États-Unis d'Amérique.
Bah oui.
Bon, d'accord, donc il y a beaucoup de façons, d'occasions de célébrer. Je dis que vis-à-vis de l'urgence qui est celle du climat, d'accord, qui est l'urgence la plus dramatique pour l'humanité. On parle de danger pour l'espèce humaine. C'est aussi dangereux que d'envahir un autre pays. C'est pour ça que je faisais la comparaison en 66 au niveau des États-Unis. Je pense que la France, dans ces cas-là, doit prendre des gestes. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que Emmanuel Macron a eu des paroles. Il n'a eu aucun acte qui a correspondu à ces paroles. Par exemple, il aurait pu dire « La France rompt les accords du TAFTA, ne signera pas le TAFTA quoi qu'il arrive, puisque c'est désormais un traité de libre-échange avec un pays dont on sait à l'avance qu'il ne respectera aucune norme écologique, en tout cas telle qu'il faudrait les mettre en place. » Bon, il aurait pu dire également « On fait un moratoire sur le commandement unifié de l'OTAN », dire quelque chose. Vous croyez que M. Trump va changer d'avis comme ça parce qu'on lui serre la main d'une certaine manière ou qu'on l'invite le 14 juillet? Je pense que c'était vraiment pas l'année,
où le mettre en avant. De convaincre, de vous,
c'était vraiment pas.
Attendez, on peut poser la question. Il dit que Trump respecte ses engagements de campagne électorale, mais il espère le convaincre de la nécessité de bouger à un moment ou à un autre. Vous n'y croyez pas une seconde?
Non, je ne crois pas que ça soit comme ça qu'on va convaincre Trump en lui faisant des risettes et en lui mettant une place d'honneur le 14 juillet. Je pense que la diplomatie, c'est aussi un rapport de France.
C'est joli, le jour du Tour de France et la victoire française.
C'est pas mal. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est un lapsus intéressant. Non, c'est un rapport de force et que, manifestement, Macron parle, mais dans les actes, il n'y a rien qui suit. Et ce qui m'inquiète derrière ça, c'est que vous remarquerez même que sur le dossier syrien, ce que j'observe, c'est qu'à nouveau, il y a une position très suiviste. Bon, ça ne rompt pas avec Hollande de ce point de vue-là, on ne peut pas faire un jure. C'est la même. Très, très suiviste de la France, derrière sur le dossier syrien. Bon, donc, je juge pour ma part qu'en réalité, on est sur une vision très, très atlantiste et nous ne sommes pas d'accord avec cette vision atlantiste. Nous sommes pour une France indépendantiste qui, à un moment donné, est capable de marquer des différences avec des puissances et notamment les États-Unis.
Serge Julie.
C'est pas la première invitation au 14 juillet d'un chef d'État étranger qui se révèle une erreur. Donc, c'est déjà arrivé. Kadhafi, Assad. Bon. Mais en même temps, les chefs d'État qui ont fait ces invitations ont pensé que ça pouvait peut-être déboucher sur une évolution et finalement qu'aurait été profitable à la France. On peut penser ça.
Dans les deux cas,
la diplomatie aussi parlé avec
justement, c'est un échec.
Voilà, c'est un échec. Et bien là, je considère la même chose.
On peut se poser la question, dans ce cas de figure, sera peut-être un échec, peut-être une évolution sur... La phrase dans la conférence de presse était ambiguë sur la question de l'évolution sur l'accord de Paris.
Voilà. Ouais, mais écoutez, on verra bien la suite. Je pense que c'est pas comme ça qu'on traite la question de Trump et c'est pas comme ça qu'on traite une question aussi grave que le climat qui, encore une fois, est la question la plus urgente. Et à partir de là, j'entends bien, il y a peut-être d'autres façons symboliques d'honorer ce centième anniversaire.
Il y a beaucoup de mise en scène, la diplomatie, c'est aussi de la diplomatie.
Il était en plus de ça, il a créé des bouchons partout. Donc c'est en plus, c'est non pas seulement de la pollution, c'est des bouchons.
Oui, mais enfin, le 14 juillet crée des bouchons partout.
Non, je parle pas du 14 juillet, je parle d'hier. Quand le président des États-Unis se déplace, on sait ce que ça provoque. Non, vraiment, c'était pas utile. Je pense que c'est une erreur de plus d'Emmanuel Macron.
Arlette Chabot.
On peut revenir un peu sur le budget de la défense.
Ah oui.
Voilà, économie demandée à la défense, colère du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, qui est toujours chef d'état-major des armées. Vous êtes du côté d'Emmanuel Macron qui dit, au fond, tous les ministères doivent être touchés par des économies qui nous permettront de rentrer et de respecter les 3% dans le budget 2017. Ou bien vous entendez les militaires qui disent, on nous demande vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup trop d'efforts, et on ne sait pas où trouver l'argent.
Non, j'entends les militaires. Peut-être que d'ailleurs les autres ministères devraient aussi réagir de la même manière pour défendre le leur, parce qu'il n'y a pas que les armées, il y a l'éducation nationale, il y a la culture, enfin 3 milliards et demi, l'intérieur également, alors qu'on nous parle de sécurité sans arrêt. Il y a même, vous avez vu par exemple que, alors même que dans le prochain débat d'orientation pour 2018, on nous dit que la France doit faire plus en matière de coopération. Le budget des affaires étrangères est amputé de plus de 200 millions d'euros, dont 142 millions sur justement les questions de coopération. Donc, moi, ce qui ne va pas globalement, c'est cette question de faire des économies pour atteindre ces fameux 3%.
Qu'est-ce qui vous gêne ? C'est l'objectif des 3% ?
Oui, je ne suis pas d'accord avec ces politiques d'austérité. Je ne suis pas d'accord avec les politiques d'austérité qui visent sans arrêt à baisser les dépenses publiques. Donc, ça, c'est globalement, parce que je pense qu'il y a un non-sens économique. Et en plus de ça, la défense, ce n'est vraiment pas le moment. Enfin, on ne peut pas demander à l'armée toujours plus, y compris des missions qui ne devraient pas être les siennes au niveau sentinelle. Nous, on pense que c'est la police, mais comme il y a moins de policiers, du coup, on va chercher l'armée et puis leur baisser leur budget. C'est quelque chose d'incohérent. Et moi, je comprends que les militaires le fassent savoir. Bon, après, il y a une manière de le faire savoir, mais je comprends qu'ils le fassent savoir.
Nous allons marquer une courte pause et nous continuerons à interroger avec Arlette Chabot et Serge Julie, Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis, député de la France Insoumise.
La suite du Club de la Presse d'Europe 1 avec Éric Coquerel, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, est interrogé par vous, François Claus.
Et par les grandes signatures d'Europe 1, Arlette Chabot et Serge Julie qui posent la prochaine question.
Oui, pour rester dans les questions internationales, le dissident, appelons-le comme ça, Liu Xiaobo, est mort d'un cancer et des traitements qui lui ont été infligés par la dictature chinoise. Le gouvernement chinois a fait savoir que il y avait une censure sur Internet concernant toute information relative à la mort de Liu Xiaobo. Ça vous inspire quoi ? Et pire, ça ne provoque pas d'émotion. Notre ami Macron a parlé toute la journée. J'ai pas eu Édouard Philippe non plus. Mais c'est pas manifesté de manière particulière, peut-être.
Oui, Qu'est-ce que je vous dis, c'est évidemment.
Non, mais
c'est,
vous, non, mais vous c'est évidemment, peut-être pour les
non,
insoumis,
c'est anormal.
C'est un moins.
C'est anormal.
C'est un motif c'est, d'insoumission.
C'est anormal, et on sait que le régime chinois n'est pas démocratique. Voilà, ça c'est clair, et que la manière dont il traite ses opposants politiques n'est évidemment pas satisfaisant. Ça prouve également qu'on peut contrôler Internet. Je dis ça aussi parce
oui,
que quand on nous dit qu'Internet c'est un monde qu'on peut pas contrôler, sur lequel les États ne peuvent pas agir, y compris à certains moments pour de bonnes raisons. Hein, je pense.
Non, ce sont les sociétés du web qui disent qu'on ne peut pas le contrôler. Mais les États acceptent, mais en l'occurrence les dictatures.
Oui, mais il n'y a pas que les dictatures, cela dit, parce que je vous rappelle que Edward Snowden a quand même largement démontré que les États-Unis d'Amérique non seulement pouvaient contrôler, mais surveiller à travers les réseaux sociaux et Google et autres, des millions de concitoyens. Donc, c'est clair
que la Russie ait été assez efficace également.
Oui, oui. Je ne dis pas, mais on peut parler des fois, on peut critiquer les Américains sans qu'à un moment donné, les États-Unis, leur régime, sans qu'à un moment donné, on nous parle tout de suite des Russes. Je dis simplement là-dessus, c'est que il est illusoire et naïf de penser que l'espace d'Internet, y compris dominé aujourd'hui par des multinationales, quand même, c'est pas, est un espace de liberté qui ne serait contrôlé que par les dictatures. Je proteste quand elles le sont, et ce qui se passe avec la Chine, évidemment, y compris d'ailleurs le sort de cet opposant qui a été empêché en réalité de soins pendant des mois,
bien sûr,
mais en même temps, je veux juste observer que du côté d'une démocratie comme les États-Unis d'Amérique, même si on peut considérer que Trump aujourd'hui, qu'avec Trump, elle a en réalité un responsable d'extrême droite à sa tête, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que là aussi, on s'est contrôlé, surveillé, donc il faut toujours être vigilant.
Enfin, c'est pas une dictature. C'est ça qui est plus compliqué.
Oui, c'est pas une dictature. Mais je dis simplement qu'il y a des groupes économiques, industriels, militaires, etc., qui à certains moments aux États-Unis font des choses normales. Pas qu'aux États-Unis.
Arlette Chabot.
Pas qu'aux États-Unis.
Si on parle sur une loi qui faisait. Les lois d'habilitation ont été adoptées à l'Assemblée. Vous avez eu le sentiment de servir à quelque chose pendant ce débat ou pas?
Oui, je crois. Déjà, on a servi à quelque chose parce qu'on nous écoute. À travers les médias, vous savez, l'Assemblée, c'est bien maintenant parce que tous les débats sont sur les réseaux sociaux. Donc je crois qu'on a en tout cas accompli notre devoir pour essayer d'éclairer la nocivité de cette loi. Et puis, on espère aussi, même si je vous avoue que le premier regard vis-à-vis de la majorité d'Emmanuel Macron est un peu inquiétante, on a l'impression qu'il vote comme un seul homme, mais je pense quand même qu'en réalité, certains vont réfléchir. En tout cas, nous, on a essayé de les convaincre du caractère absolument rétrograde de cette loi, dangereux, puisqu'elle casse le code du travail en quelques jours. Bon, et puis la dernière chose, c'est que ça nous a permis de faire un appel à la mobilisation. On a mobilisé le 12 juillet, et puis à la rentrée, on mobilisera encore plus.
C'est-à-dire que rendez-vous à la rentrée et tous dans la rue pour essayer de...
Bien sûr. Vous savez, la démocratie, il y a la démocratie parlementaire, mais qui là, en l'occurrence, est très largement contournée avec les ordonnances. Enfin, la mobilisation sociale, les grèves, tout ça, ça fait partie aussi de la démocratie. Moi, je pense qu'il n'y a pas de majorité en France pour approuver ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, la loi El Khomri empire. Je vous rappelle que jusqu'au bout, 70% des Français s'opposaient à la loi El Khomri. Ils ont même parlé des syndicats. Et que de la même manière tout le monde va se rendre compte de ce qu'est cette loi. Parce que là, en plein été, les informations passent. Mais enfin, on peut supposer qu'à certains moments, les Français regardent peut-être un peu ailleurs. Enfin, qu'on va s'apercevoir de l'inversion du norme. Le fait de casser le CDI avec les CDI chantiers et de permettre que les CDD, désormais, soient gérés tant au niveau de leur contenu, de leur périodicité, etc., par les accords de branche et non plus par la loi. Mmh. Quand on va s'apercevoir qu'on facilite désormais le travail de nuit, considéré comme quelque chose de normal, ce qui est inverse de tout ce que disent les chronobiologistes sur la pénibilité, sur la représentativité syndicale et des salariés qui est diminuée. Je pense que quand on va voir tout ce qui a été voté en quelques jours, les gens vont réagir. En tout cas, nous, on va essayer de faire en sorte d'appuyer ces mobilisations.
À l'exception de la CGT, on ne peut pas dire que les organisations syndicales soient absolument mobilisées. Alors, soit elles n'entendent pas la même chose que vous, soit elles doutent moins que vous, soit vous exagérez les risques.
Non.
Soit elles sont dans une logique d'opposition constructive, entre guillemets.
Oui, enfin, c'est les Républicains qui sont constructifs. Mais qu'on nous permette sur ce texte, que nous jugeons entièrement mauvais, d'accord, de jouer un rôle d'opposition clair et net, point. Bon, on va voir quels seront les syndicats à la rentrée. Il y a la CGT pour l'instant, il y a Solidaires, FO, on va voir la manière dont Force Ouvrière, absolument, qui s'oppose.
La plus opposée.
Mais bien sûr, tout simplement parce qu'il y a certaines mesures en plus qui vont clairement pénaliser les cadres. Par exemple, le fait de favoriser sans arrêt la loi travail, sans même une réflexion un peu... Le télétravail, sans même, à un moment donné, une réflexion un peu philosophique de ce que ça peut signifier si vous vous retrouvez en réalité chez vous, tel on pouvait l'être à un moment donné dans des filatures au 19e siècle, à travailler en permanence. Parce que c'est ça aussi qui est derrière cette logique. Je pense que les cadres peuvent être touchés de manière très, très importante. Et c'est pour ça que des organisations syndicales qu'on attendait peut-être moins sont en train justement de se mobiliser. Moi, je crois qu'à la rentrée, il y aura des mobilisations syndicales. Mais nous, France Insoumise, nous jouerons aussi notre partition, on appellera aussi à des initiatives, on appuiera les syndicats, mais on appuiera aussi les initiatives. Pourquoi ? Parce que cette loi ne concerne pas seulement, j'allais dire, le rapport entre les salariés et leurs syndicats et le patronat, elle est un problème vis-à-vis de l'intérêt général du pays, notamment parce qu'elle inverse les normes et fait en sorte que la loi, désormais, eh bien, est mineure, secondaire par rapport aux accords d'entreprise. C'est donc quelque chose qui concerne tout le monde.
Très rapidement, Serge Julie, avant la deuxième pause.
Vous avez prévu quelque chose pendant l'été, une agitation, vous avez... Vous dites à la rentrée, bah d'accord, mais vous prenez des vacances malgré la dureté de cette loi.
Vous avez remarqué qu'Emmanuel Macron ne nous permet pas de prendre de vacances, pas avant début août.
Oui.
Non, on va faire des caravanes un peu partout, dans les quartiers populaires en France, et on va essayer d'informer sur cette loi avec l'éducation populaire. En gros, on va continuer à faire ce qu'on a fait pendant les campagnes électorales, parce qu'on a fait une campagne électorale qui était de l'éducation populaire contre la loi, de façon à préparer la rentrée et en espérant que la mobilisation suive. Moi, je pense qu'elle est possible. Et je pense qu'il est possible de montrer qu'il n'y a pas de majorité dans le peuple pour casser le code du travail qu'est en train de le faire Emmanuel Macron de la pire manière
possible. Il y a une majorité aussi.
Le rendez-vous est pris pour la rentrée.
On verra la rentrée, Arlette Chabot.
Merci Éric Coquerel d'être venu avec nous, et vous allez peut-être partir faire un petit peu de voile, votre passion, pendant les vacances. Non, vous avez encore un peu de travail.
Il ne va pas faire le Vendée Globe maintenant, il est député.
Allez, une courte pause, et Amy Green, la politologue, dans une minute.
François Claus.
Deuxième invité du Club de la Presse ce soir autour des grandes signatures qui m'accompagnent, Arlette Chabot et Serge Julie. Nous sommes heureux d'accueillir Amy Green. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes franco-américaine.
Américaine-américaine.
Américaine-américaine. Encore mieux. Mais vous êtes chercheuse pour une institution française, sérieux série. J'imagine que de voir ces Français là avec leur drapeau américain sur les champs, de voir cette tonalité, cette American touch dans Paris, ça ne vous a pas laissé totalement indifférente. Au-delà de la chercheuse,
je parle
à la citoyenne américaine.
C'était bien émouvant de regarder les troupes qui se défilaient, et puis de voir les avions américains qui ont défilé juste après les avions français. Évidemment,
c'était très américain d'ailleurs.
C'était
dans
bien émouvant. Oui,
c'était
absolument.
Une sorte de scénario.
Oui, c'était un spectacle. Bon, on n'a pas des défilés de cette manière.
C'est une originalité française quand même.
C'est tout à fait une spécificité à la française. Évidemment, mais c'était une année très importante, et donc de voir ces troupes-là, se mettre sur les Champs-Élysées et devant les deux présidents, ça a inspiré quelque chose, évidemment.
Votre président Trump, il est venu se refaire une santé en France ou
oublier ses ennuis.
C'était surtout
quelle
ça.
Fonction
évidemment,
ça,
c'était 24 heures
de
répit.
Quelle est la finalité?
C'était 24 heures de calme, ça c'est sûr. Je crois que évidemment, il est dans une situation très compliquée, et de plus en plus parce qu'il y avait des révélations il y a quelques heures, qu'il y avait un lobbyiste qui a assisté à la réunion avec son fils. Donc il y a des gros soucis. Évidemment, c'était pour une respiration. Il y avait aussi une forme de volonté de se remettre dans une forme d'amitié, parce qu'il est très très isolé internationalement, de plus en plus sur la scène domestique, même si les républicains ne veulent pas non plus le désavouer, même très peu par ailleurs, mais c'est quelqu'un qui est en grande difficulté politique aux États-Unis et voire juridique.
Vous diriez que vous connaissez la formule française, on ne tire pas sur une ambulance, c'est déjà une ambulance.
Je ne connais pas l'expression,
je ne pas s'acharner, sur quelqu'un qui est déjà à terre. Voilà,
oui,
c'est ce que je veux dire. En politique, on ne tire pas sur une ambulance.
C'est vrai que c'était une victoire symbolique pour Donald Trump, parce que ça lui a permis de venir se serrer la main avec le plus grand allié, enfin le plus ancien allié des États-Unis, de parler de la liberté, des grandes valeurs aussi, de commémorer la grandeur américaine et la présence nécessaire à cette victoire il y a 100 ans. Évidemment, c'était une forme de respiration, mais également le symbolisme était là. C'était, c'était facile et avec son, peut-être un de ses seuls amis chefs d'État étrangers.
Alors, aux États-Unis, on se réveille, pardon, Arlette, aux États-Unis, on se réveille, mais la perception qu'on a, nous, en France, puisqu'on est un peu dans, dans l'émotion, on est juste à côté des Champs-Élysées ici, est-ce qu'elle est la même selon les premières réactions que vous avez vues aux États-Unis? J'ai l'impression qu'il y a, il y a un petit décalage même déjà.
Oui. C'est sûr, ce qui fait écho, c'est surtout ce qui a été dit pendant la conférence de presse hier. Donc, il y a une forme d'excitation sur le fait que les États-Unis vont pouvoir travailler davantage avec la France, qu'il y a cette forme d'accord entre les deux pays. Mais aussitôt que la visite se termine, tout le monde reprend de toute façon la Russie. Donc, on a eu 24 heures de calme, de vue sur la Tour Eiffel, etc. Mais maintenant, la question, c'est vraiment la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé avec son fils, avec ce lobbyiste qui a assisté également avec le, l'avocate russe? C'est ça le sujet principal, pas distraction autre.
Le Russia Gate.
Pardon?
Le Russia Gate. Oui. J'ai lu ça dans la presse américaine.
Le Russian Gate.
Oui.
Et
oui.
Question
oui.
d'Alain Chabot.
Oui.
Alors, si on revient au grand sujet qui doit séparer théoriquement la France et les États-Unis, c'est-à-dire l'accord climat, vous pensez que pour faire plaisir à son ami, le seul qui ne lâche pas en période difficile, Emmanuel Macron, le président Trump est décidé à faire un tout petit geste où tout ça est une très belle mise en scène destinée à, comment dirais-je, aider leur communication à tous les deux?
Il y a une phrase un peu ambivalente. Là,
il a dit que ce sera bien s'il pouvait faire un petit geste, mais ce, sera, ce sera formidable aussi si rien ne changeait finalement. Donc peut-être qu'on va voir que ça bouge. Évidemment, la position protectionniste de Donald Trump fait qu'il a très peur de la perte des emplois, même si l'avenir des emplois, ce n'est pas du tout dans les secteurs anciens, des énergies anciennes et non renouvelables. Et donc, on peut peut-être voir du progrès, mais je crois que là encore, il ne s'était pas engagé. Il n'y avait que des engagements sur des points où la France et les États-Unis travaillaient bien déjà. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on doit anticiper un changement radical de positionnement, même si il faut aussi se rappeler du fait que les États-Unis y sont encore jusqu'à 2020. Mm-hmm. Donc c'est l'année de réaction de Donald Trump. Donc aujourd'hui, les États-Unis ont fait la déclaration de sortir, mais concrètement, rien ne s'était fait. Donc c'est aussi facile pour Donald Trump de laisser la porte ouverte avec cette formule très ambiguë, parce que rien n'a changé concrètement au-delà de l'importante déclaration et de cette volonté américaine d'en sortir.
Mais donc comme le disent certains, Emmanuel Macron, il a acheté une valeur qui est très très à la baisse là. Et il vaut mieux acheter quand ça baisse que quand ça monte, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui.
Est-ce que vous pensez, vous êtes quand même dans un think tank de stratégie que le président Macron cherchait une position qui le mettait entre l'Amérique et la Russie?
Je crois qu'il a surtout saisi une opportunité assez large, finalement. Comme on sait tous, Angela Merkel a dû prendre ses distances. De toute façon, ça passait mal, mais pour des raisons électorales et de campagne, elle ne peut pas se rapprocher davantage du président américain. Et même la qualité de la relation entre les deux pays a été déclassée déjà il y a quelques temps. Et donc, avec le Brexit, c'est vrai qu'il y a très sommet qui serait un rapprochement tout à fait naturel, mais Emmanuel Macron avait dû aussi se rendre compte que c'est avec l'Union européenne que les États-Unis vont avoir des échanges commerciaux beaucoup plus importants qu'avec le Royaume-Uni, même s'il y a une négociation d'un accord bilatéral. Donc il a dû comprendre que c'est naturellement la France qui va prendre cette place de grand allié des États-Unis en Europe. Et puis le calcul a été très clair, il vaut mieux avoir Donald Trump sur ses côtés pour pouvoir essayer de l'apprivoiser. J'espère que j'ai dit correctement ce mot. Et puis comme ça, il y a peut-être la possibilité d'influer sur la position américaine avec un dirigeant qui est, pour dire le moindre, très imprévisible. Donc il a dû se dire, bon, si on peut jouer sur les marges et nous assurer de la pérennité des grandes coopérations militaires, stratégiques, sécuritaires, etc., il n'y a que du gagnant.
Alors on verra les différentes étapes pour apprivoiser l'animal Trump, comme vous dites. C'est peut-être pas gagné, mais en tout cas pour nous journalistes, ça nous donne du travail. Allez, une courte pause et nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Amy Green, à tout de suite.
La suite du Club de la Presse d'Europe 1 avec vous François Claus et avec à vos côtés Arlette Chabot et Serge Julie.
Nous recevons Amy Green, la politologue américaine, enseignante, chercheuse au CERI. Nous nous interrogions là sur cette espèce de bulle de respiration que Trump est venu chercher à Paris, mais que
dès qu'il aura reposé le pied aux États-Unis, ça va repartir parce que ce Russian Gate, comme disait Serge Julie, n'en est qu'à ses prémices. Et puis on voit une information chaque jour. Il est venu défendre son fils qui était à ce dîner tant compromettant. Et puis on apprend qu'il n'y avait pas seulement le fils, mais quelqu'un d'assez haut niveau en lobbyiste.
Responsable de la campagne.
Et c'est quand même au-delà de la légèreté avec laquelle il a répondu à Paris, une affaire extrêmement sérieuse. En a-t-il conscience réellement, Donald Trump ?
Je crois qu'il doit avoir conscience par l'ampleur que ça commence à prendre et par le fait qu'il devient de plus en plus coincé de tous les côtés, puisque, comme vous avez à juste titre dit, cela n'implique pas seulement, ou peut-être pas directement aujourd'hui, le président Trump, mais c'est surtout son fils, son chef de campagne, son ancien chef de campagne et son gendre. Donc déjà, ça fait trois personnes. Il y a d'autres, l'ancien conseiller de sécurité nationale qui a dû démissionner autour de cette question-là, son ministre de la Justice qui a dû renoncer à participer à des investigations par sa propre proximité. Donc, ça commence à toucher vraiment beaucoup de personnes autour de la personne du président. Et donc, comme vous avez dit, c'est un problème qui est grave. Et à mon avis, voilà, il n'a pas attendu l'atterrissage du président pour relancer. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le président a commencé par dire, bah, finalement, il n'y avait rien qui s'est passé. Il n'y avait pas du tout de collusion. Et voilà. Et puis, de plus en plus, il est obligé de se défendre. Et avec des informations de plus en plus d'annonces.
À partir du moment où il admet qu'il a eu ce rendez-vous, qu'il a gardé ça pour lui, l'infraction, elle est constituée dans notre manière de voir les choses.
Mais bien sûr, et parce que ce qu'on avait dit en aparté, c'est que voilà, son fils, son gendre et son chef de campagne avaient cru que ces personnes, cet avocat russe et le lobbyiste, allaient apporter des informations très importantes et dangereuses contre Hillary Clinton. Et peu importe si c'était du temps perdu, ils sont venus à la réunion avec l'intention d'obtenir des informations. Mmh. Alors que dans le passé, la pratique fait que à chaque fois que quelqu'un reçoit ce genre de contact pendant une campagne, il contacte le FBI. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et aujourd'hui, ils soulignent le fait que finalement tout le monde le fait et donc c'est pas très grave. Ce qui n'est pas nécessairement très bien en ce que ça renvoie comme code moral ou personnel ou de valeur de principe.
À votre avis, cette affaire va se développer et où elle peut nous le mener ?
Elle peut mener très très loin. Je ne sais pas si vous sous-entendez la destitution, parce que là, à mon avis...
Enfin, c'est à l'autre bout, ça.
Oui, mais, c'est un bout très,
très
loin.
En général, la destitution n'a jamais lieu. Les susnommés démissionnent avant.
Oui, c'est ça. Ou pour Clinton, il n'a rien fait, il a terminé son mandat. Mais c'est vrai que la destitution, même l'acte, ce vote, implique une forme de super majorité qui ne se produira jamais.
Ça, vous pouvez nous rappeler
petit
cours de droit constitutionnel américain, de rappeler à nos auditeurs, justement, là, le verrouillage juridique qu'il y a qui protège.
Effectivement, il y a deux votes, il y a la Chambre et puis le Sénat, et après il faut une majorité qualifiée au Sénat, et donc il faut un consensus politique majeur des deux côtés.
Donc il faut que les républicains l'abandonnent, à un moment qu'ils considèrent que leur propre candidat est dangereux pour eux.
C'est aussi pour Nixon, et qui n'a pas eu lieu, puisque Nixon a démissionné avant. Mais les majorités étaient constituées pour Nixon.
Mais logiquement, on peut aussi s'attendre à ce qu'il y a des informations importantes qui ont été communiquées pendant ces réunions. Il aurait pu avoir d'autres réunions qui aujourd'hui ne sont pas encore communiquées. Ça peut continuer à se développer. On peut aussi peut-être imaginer qu'il peut avoir des liens directs avec le président. Je n'en sais rien. Mais c'est ça aussi le problème, c'est que lorsque les journalistes et les personnes qui sont compétentes en ces sujets commencent à creuser, commencent à puiser, ils découvrent de plus en plus. Donc la question, c'est vrai, c'est, on dirait presque que le ciel, c'est le seul limite, hein, comme on dit en anglais, le sky's the limit. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois, l'équipe autour du président insistait sur le fait qu'il n'y avait aucun tort commis, qu'il n'y avait absolument rien à voir. Et dès qu'il y avait un peu d'investigation, ça revient des choses supplémentaires. D'autant plus qu'il faut... Il ne faut pas oublier non plus que le gendre de Trump avait commencé à recevoir, il a reçu une réunion avec un Russe hautement placé sans l'avoir déclaré au service secret, ce qui est hors la loi. Et après, il a tenté de créer... Tout à fait, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'il y a à cacher ? Tout en sachant que très peu après, il a tenté d'établir des canaux secrets de communication avec le Kremlin. Pour parler de la Syrie, c'était la justification. Mais pourquoi ?
J'insiste, quel est votre pronostic, vous, sur l'évolution de cette affaire ?
aujourd'hui, je pense que ça bouge trop vite pour que j'aie un pronostic franchement sérieux, puisqu'il y a trop d'éléments qui agissent, qui s'introduisent. Je sais qu'il y a l'investigation, que les équipes de Trump ne font aucun secret du fait de vouloir discréditer la personne qui le mène, Mueller. Ils cherchent à tout prix à relancer le fait que c'est les fake news de toute façon, le New York Times et les journalistes qui avancent ces informations. Et donc, ils dément à chaque fois en disant bah, vous inquiétez pas parce que finalement Donald Trump le fils il est très bien, c'est quelqu'un de qualité, donc je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui quel est la pronostic, tout simplement parce qu'il y a trop d'aspects qui bougent et trop rapidement.
Mais la clé, c'est évidemment, ce sont les Républicains et l'attitude, oui, et le moment qu'ils pourraient choisir pour lâcher le président.
Absolument.
Qu'est-ce qui déterminerait à votre avis ce bouger, c'est-à-dire parce qu'il y a un électorat qui reste fidèle à Trump, il y a quel moment ils pourraient, eux, déclencher, en tout cas le lâcher? Quel moment, quel élément peut les conduire à le lâcher?
C'est intéressant cette question. Je vais vous répondre en commençant avec un petit anecdote. C'est que quand ils sont en train d'auditionner les candidats pour le poste de directeur de FBI, et même les républicains qui étaient les plus critiques de Donald Trump, finalement, posaient des questions qu'on a qualifiées d'assez légères finalement. Et ça démontre à quel point même les républicains les plus en désaccord avec le président sont pas nécessairement prêts à l'abandonner.
Pourquoi? Parce qu'ils sont assis sur une partie de l'Amérique, du peuple, de ceux qui les ont élus,
alors c'est un président qui a moins de 40% de cote de popularité, mais parmi ceux qui le soutiennent, ça reste assez élevé, parce que c'est un président qui donne satisfaction à ceux qui l'ont élu. Donc, je pense que le prochain rendez-vous où on peut commencer à avoir de l'agitation, c'est pour les midterms, dans les circonscriptions qui sont peut-être un peu contestées parce que la composite de l'électorat fait que les postes pour les républicains sont menacés, et donc c'est des personnes pour des sujets tels que l'assurance maladie ou autres sont obligées un peu de se distancier du président. Mais pour l'instant, on voit une forme de solidarité républicaine qui peut être tout à fait surprenante quand on voit la position sur l'immigration que le président Trump avance et continue à travailler, et y compris pour réduire l'immigration légale. Ils sont en train de travailler les propositions de loi qui vont réduire ça de 50%, donc assez rapidement. Donc, quand on voit les prises de position qu'ils prennent, on voit qu'il y a très peu de républicains qui le quittent en ce moment. Donc, peut-être pendant les midterms, mais il y a juste une autre chose qui est structurale dans la politique américaine, c'est la constitution des circonscriptions. Parce qu'il y a un processus qui s'appelle gerrymandering, c'est le découpage des circonscriptions, qui a été fait de manière politique. Ce qui fait que finalement, vous avez des extrêmes dans les circonscriptions, il n'y a plus du tout d'intérêt pour les élus de recourir vers le centre, de faire des compromis. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Ce qui fait que ça rend plus difficile cette distance prise par les républicains avec le président.
Encore un mot sur cette affaire. J'ai rencontré des Américains qui craignaient, qui étaient hostiles à Trump, mais qui craignaient justement une démission de Trump parce qu'il serait remplacé par son vice-président, qui est beaucoup plus réactionnaire, entre guillemets,
absolument. C'est clair. Mike Pence, c'est un idéologue, mais c'est absolument le cas. Pour Donald Trump, c'est quelqu'un qui, oui, vit évidemment sur des questions de l'immigration, du protectionnisme. Visiblement, il tient à son discours. Donc, il me semble que c'est ses vraies positions. Alors que Mike Pence, c'est quelqu'un qui, sur les questions sociales, sur les questions de santé, des droits reproductifs, etc., c'est quelqu'un qui est idéologiquement opposé, avec une vision du monde extrêmement conservatrice, et avec les équipes qui vont avec. Donc, si on voyait un président Trump destitué, ce serait remplacé par l'aile extrêmement conservatrice du Parti républicain. Et en plus, c'est des gens qui le sont vraiment. Et il y a tout des troupes, en fait, de personnes dans ce courant du parti qui seraient renforcées par une prise de position, par une prise de pouvoir du vice-président.
Vous êtes sur Europe 1, c'est le Club de la Presse, et nous sommes avec Amy Green, la chercheuse américaine, politologue aux séries, et on marque une dernière pause, Ombline.
Sur Europe 1, Amy Green est l'invitée du Club de la Presse. La politologue américaine et enseignante chercheure aux séries est interrogée par vous, François Claus.
Et je suis avec les grandes signatures d'Europe 1, Serge Julie et Arlette Chabot. Nous avons évoqué Amy Green, la politique intérieure, le 14 juillet. Il y a également ce qu'on peut appeler la montée des périls, ou la manière de les résoudre, de les régler. On pense à la Corée du Nord et on pense aussi à la Syrie. On a vu une forme d'infléchissement là de la position française. Est-ce que du côté américain, là, on est prêt à aller au bout d'une certaine logique, sachant qu'il y a quand même un peu les Russes en face aussi?
si vous parlez de l'interventionnisme, je ne suis pas sûre que la position américaine irait jusque-là, tout simplement parce qu'il y a très peu d'appétence aux États-Unis, notamment au sein de l'opinion publique, pour une nouvelle guerre au Moyen-Orient. On a eu l'expérience de cette double guerre en Afghanistan et en Irak. Donald Trump avait décidé de renforcer le nombre de troupes présentes en Afghanistan, alors que le peuple, tout simplement, ne supporterait pas une nouvelle guerre. C'était aussi la crainte
même
avec
l'Iran.
Même s'il
s'agit de détourner son attention de difficultés intérieures.
Oui, c'est
sans
oui,
être
je pense
totalement
que...
cynique.
Oui, non, mais évidemment, il faut toujours aller jusqu'au bout des logiques. Mais je pense que pour l'instant, on a vu la position américaine n'a pas du tout changé malgré les interventions avec les frappes, tout simplement qui ont été pour punir l'utilisation des armes chimiques, qui reviennent aussi à la nouvelle position française. C'est de dire que, de toute façon, l'utilisation des armes chimiques seront punies. Même si ils avaient tous les deux chefs d'État ont déclaré la position commune qui est de dire que ils n'insistent plus sur la sortie de Bachar al-Assad pour continuer à travailler sur le dossier.
Ça change. Il y a la ligne rouge avec Bachar.
Oui, absolument. Ce qui peut être intéressant aussi après cet exercice de rapprochement entre Macron et Trump, c'est on se rappelle de ce qui s'est passé avec Obama et Hollande. Alors Obama avait dessiné cette fameuse ligne rouge et Hollande a une certaine difficulté politique avait rassemblé autour de lui les forces nécessaires pour pouvoir aller avec les États-Unis. Alors Obama avait décidé de
exactement
ce qui a laissé la France en situation un peu compliquée et je pense que là évidemment, Emmanuel Macron s'était montré très en phase avec la pensée de Trump par rapport au contre-terrorisme, par rapport à la Syrie et aussi plus largement sur la coopération en défense, stratégie, etc. Tout en s'engageant aussi à mettre le 2% du budget sur l'OTAN. Donc peut-être qu'on veut voir justement cette coopération qui a déjà très bien fonctionné continuer à agrandir.
Arlette Chabot.
Oui. Face à la Russie, quelle peut être la position de Donald Trump aujourd'hui? Est-ce que Poutine regarde? Alors, les informations, l'échange, il y a cette affaire. Il y a un accord, en revanche, sur la Syrie qui a l'air de bien fonctionner pour arrêter les combats. Donc, quelle est, à votre avis, la position qu'il doit défendre Donald Trump face à Vladimir Poutine pour être crédible?
C'est compliqué parce que ce qu'il fait pour l'instant, il joue la carte d'opposition publique pour essayer de s'acheter cette crédibilité. Il avait dit qu'il a dû se retenir de gifler Poutine, que c'était compliqué pour lui. Donc évidemment, on peut aussi constater que Poutine lui a tendu un piège et il est tombé dedans. Donc il doit aussi récupérer un peu de cette image de quelqu'un qui s'est fait piéger. Évidemment, il ne peut pas. Non, la Russie, c'est une puissance antagoniste aux États-Unis, mais dont les États-Unis ont nécessairement besoin pour des questions de la Syrie, mais aussi pour la question du désarmement nucléaire, si on peut continuer à parler de ça. Et donc, évidemment, il faut qu'il maintienne ce dialogue qui peut se faire entre chefs d'État, mais aussi dans d'autres tracts diplomatiques, et que humainement, homme à homme face à l'autre homme, il essaie de jouer la carte que je suis aussi moi un homme fort et moi aussi j'ai des cartes à jouer face à ce Poutine qui essaie de nous piéger. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait aussi des échanges tout récemment où Trump essaie de montrer en quoi il est totalement en accord avec Poutine et prêt aussi à le pardonner, à dire que finalement l'interaction avec la Russie et les élections américaines n'était pas si mauvaise que ça. Mais en même temps, en essayant de se démarquer, mais encore une fois, ça joue publiquement. Et pour l'instant, la vraie coopération dans notre pays, on ne voit pas de changement stratégique sur le fond.
Oui, mais c'est...
C'est compliqué.
Cette affaire sur le Russian Gate,
ça brouille
évidemment
totalement les relations.
Toute initiative, ça doit inhiber toute initiative de la part de Trump vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de Poutine. Alors qu'il a fait campagne sur le rapprochement avec la Russie,
Absolument. Il
est verrouillé, bloqué sur cette question.
Non, c'est clair. Trump avait même suggéré, il a dit explicitement que Poutine aurait bien aimé une présidente Clinton. Alors finalement, ça va à l'encontre de tout ce qui a été dit pendant la campagne. Alors oui, évidemment, il a joué le jeu que entre dirigeants forts avec des inclinations d'un peu autoritaires, Trump saurait se défendre et défendre les intérêts des États-Unis. Et il en a fait beaucoup. Alors aujourd'hui, il s'était pris dans le piège et maintenant c'est à lui de reconstituer un peu de crédibilité. Mais évidemment, cette absence de confiance va empêcher un certain nombre de choses. Mais mine de rien, il y a des dossiers internationaux importants
sur lesquels,
dans la Corée du Nord, où les États-Unis ont besoin des Russes, tout simplement.
Et justement, sur la Corée du Nord, cette alliance potentielle américano-russe qui réglerait bien des problèmes en ciblant la Corée du Nord, mais il y a la Chine à côté.
Et on n'a même pas parlé de la Chine.
Il y a la Chine juste à côté. Donc, comment on observe, on attend. Il y a une forme d'inquiétude, de psychose aux États-Unis autour de la Corée du Nord.
Pas pour l'instant. Il y a effectivement
quand
avec
on prononce Corée aux États-Unis, c'est un mot qui parle et
oui, avec la montée des tensions, il y avait beaucoup d'encre mise sur du papier pour parler du conflit, des tensions qui montaient. Mais en même temps, il n'y a pas tellement d'inquiétude que ça, et il y a encore l'espoir de pouvoir travailler avec les Chinois ou encore en direct en négociation avec le régime nord-coréen pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, il y a le sentiment que la Russie prend tout l'oxygène sur le débat politique en ce moment. Alors, la Corée du Nord, c'est certes très important et urgent à résoudre, mais je ne peux pas sous-dire à quel point la Russie prend toute la place maintenant.
Est-il exact que les militaires aux États-Unis, enfin en tout cas les responsables militaires, ont moqué la rétorsion américaine après l'essai sur le missile intercontinental fait par les Coréens? Dit que l'envoi de missiles vides, oui, ça a eu un effet un peu contre-productif.
Allez, vous avez 10 secondes pour répondre. Est-ce que...
Oui, il y a une chose que j'allais dire, c'est que en fait, vous parlez de la question des militaires, et ce qu'on voit aussi, c'est à quel point Trump fait confiance à ses militaires. Je ne vais pas terminer sans le dire, parce qu'on avait vu pendant la réunion en tête-à-tête chef d'État hier, qu'il y avait deux généraux à côté du président des États-Unis. Alors, si on peut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui le guide en matière de politique étrangère et à qui il écoute en priorité, c'est surtout ses généraux.
Alors, il s'appelle Folamour, c'est généraux ou non?
En tout cas, il a peut-être donné un conseil à Emmanuel Macron pour traiter le cas de Villiers, le chef d'état-major qui a été un peu bavard devant les députés. Merci, Amy Green.
Merci à vous.
D'avoir commenté cette actualité, cette riche actualité aujourd'hui. Il est sur Europe 1, 20h. On se retrouve, Ombline, lundi pour un nouveau Club de la Presse à partir de 18h.
C'était François Clos sur Europe 1.